Nous allons vous lire des extraits du roman « L'incroyable histoire du coq qui ne voulait pas fermer son bec », écrit par Thomas Gerbaud et illustré par Pauline Kerleroux. L'héroïne de cette histoire s'appelle Jeanne. Elle a 12 ans et rêve de devenir journaliste. C'est pour cela que son père, vétérinaire, lui a trouvé un stage à Westmata. « Tu dois être la petite Jeanne ?» J'ai répondu oui en me disant que si elles attendaient une autre Jeanne, elle serait sans doute moins petite que moi. La fille de l'accueil s'est ensuite tournée vers l'autre dame, assise à côté d'elle. C'est la petite Jeanne. Elle lui a dit cela comme si elle n'avait pas entendu le début de notre conversation. Puis, elle m'a tendu un badge en carton avec une petite pince que j'ai accrochée à la bretelle de mon sac à dos. « Alors, comme ça, tu es la fille du vétérinaire ?»« Oui, comme ça. » À nouveau, elle s'est adressée à sa collègue. « C'est la fille du vétérinaire. Tu sais, le monsieur de la rubrique pas si bête. » Tout doucement, la dame a avancé la tête. « C'est ton papa, le monsieur de la rubrique pas si bête ?» J'ai hoché la tête et je me suis mordu la lèvre. Un truc que je fais quand j'ai envie de rire mais que ce n'est pas le moment. Finalement, la première dame a pris son téléphone et l'a coincé entre sa joue et son épaule. « Bonjour, ici l'accueil. La petite pas si bête est arrivée. Je vous l'envoie. »
À Westmata, Jeanne fait connaissance de Margot Duras, journaliste aux faits divers. Elle s'intéresse actuellement à une drôle d'affaire. C'est le titre, imprimé en grand, qui a attiré mon attention. Le coq de l'île Mouton, forcément coupable. J'ai posé mon chocolat et j'ai commencé à lire ce qui suivait. L'article parlait d'un coq nommé Maurice, à qui l'on voulait interdire de chanter, parce qu'il dérangeait ses voisins. Je n'en croyais pas mes yeux. Il se passait jamais rien sur mon île et quand il se passait quelque chose, il était rare que les journalistes en parlent. Ça va, c'est bien écrit. Arrivée derrière moi, Madame Duras m'a fait sursauter. La tasse s'est renversée et le chocolat s'est répandu sur la table. La feuille est devenue tout marron et quand Madame Duras a essayé de la soulever par le coin, elle s'est déchirée.
Que vous l'avez lu, a dit Madame Duras. Oui, un peu seulement, ceci ennuyeux. Oh non, je viens de l'île aux moutons, alors forcément, ça m'a intéressé. Forcément, oui, a dit Madame Duras. Dites-moi, cet article, qu'en avez-vous retenu? J'avais l'impression de passer un examen. Heureusement que je me souvenais de ce que je venais de lire. Vous avez écrit qu'un coq qui s'appelait Maurice a été interdit de chanter, soi-disant parce qu'il dérangeait le voisin de la ferme. Soi-disant, oui, c'est cela. D'après vous, si j'ai bien compris, l'histoire du coq qui chantait trop tôt cacherait une autre histoire, peut-être un secret. Une histoire de voisinage, oui. Des voisins ne se font jamais la guerre sans raison.
Margot Duras propose à Jeanne de l'accompagner pour interroger le juge qui s'est occupé de cette affaire. Le juge nous a dit bonjour avant de s'asseoir dans son fauteuil. Que puis-je faire pour vous? Je m'intéresse à l'affaire du coq Maurice, a dit Margot. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Le juge a pris un dossier sur la pile et l'a ouvert. On ne pouvait pas voir ce qu'il y avait dedans, mais en suivant son regard, on a compris qu'il lisait quelque chose. Une affaire assez banale. Un couple de sympathiques retraités achète une maison de campagne et découvre que la ferme voisine a un poulailler. Tous les matins, à l'aube, ils sont réveillés par le chant du coq qui essaye de s'arranger avec le fermier qui commence à protester, prétend qu'il ne peut rien faire. La femme déprime et ne dort plus. Les voisins finissent par porter plainte et le dossier atterrit sur mon bureau. Et vous interdisez au coq de chanter comme ça, tout de suite? Non, bien sûr, j'ai essayé de trouver une solution, mais les parties restaient campées sur leur position. Ce n'est que plus tard que je demandais au fermier de faire taire son coq. Et cela ne nous a pas paru, disons, étrange que ces gens portent plainte pour un coq qui a toujours été là, qui a toujours chanté et dont personne ne s'était jamais plaint.
Margot charge Jeanne de couvrir pour elle le procès qui doit se dérouler sur l'île Mouton. Jeanne accepte de rédiger un article et loge chez son ancienne institutrice, Mademoiselle Badaouette. Avant le procès, elle interroge différents témoins. D'abord, le fermier. « Je peux vous poser quelques questions ?» Le fermier a haussé les épaules. « Il est toujours là, Maurice ?» Quand j'ai dit Maurice, les trois poules qui l'accompagnaient ont levé la tête. Il est là, a bougonné le fermier. Les poules se sont tournées vers moi, toutes les trois en même temps. Je ne le vois pas. D'un même geste, comme si elles suivaient la balle d'un match de tennis, les trois poules se sont tournées vers le fermier, pour entendre sa réponse. Elle aura du mal. Elle, je me suis d'abord demandé de qui le fermier voulait parler, puis j'ai compris que c'est à moi qu'il s'adressait. Pourquoi ? La nuit, Maurice n'a plus le droit de quitter sa cage. C'est le juge qui l'a dit. Et le jour ? La cage est ouverte. Il fait ce qu'il veut. Une poule a fait cote. Elle n'avait pas l'air d'accord. J'ai repris la parole. Pourtant, je ne le vois pas. Il sort pas. Vous croyez que je pourrais le rencontrer ? Pas le temps, a dit le fermier.
Puis Jeanne interroge les poules surnommées les Mathildes. J'ai demandé aux Mathildes de me parler du chant de Maurice. Le génie de Momo, c'est la mélodie. Tantôt légère, tantôt grave, elle vous donne toujours la chair de poule.
Et ce texte, au début, c'est vrai, il se contentait de copier les tubes américains qui plaisaient aux poulettes. Mais très tôt, il a écrit ses propres chansons.
Paroles et musique, avec le même talent. Il peut chanter l'amour, l'amitié, la vie, la mort. Vous avez toujours l'impression que la chanson est écrite pour vous. Pas pour une autre poule, non, juste pour vous. Les trois poules s'étaient tues, trop émues. J'ai changé de sujet. Vous voulez bien me le présenter ?
Qui donc ?
Momo. J'ai laissé mon vélo sur le bord du chemin, à l'abri d'un talus, puis j'ai suivi les Mathildes jusqu'au poulailler. En chemin, elles m'ont mise en garde. Momo était très secret et son entourage faisait barrage. Personne ne rencontrait Maurice sans l'accord de Coco et Rico. Le premier était son imprésario, le second son garde du corps. « Sinon, vous comprenez, il serait tout le temps dérangé, » disaient les poules.
J'ai poussé la porte. « Maurice ! » Dans l'obscurité, j'ai remonté l'allée entre les deux rangées de bancs. Maurice était bien là. Assis, immobile sous la maquette du Madagascar. La lumière d'un lampadaire, filtrée par les vitraux, donnait à ses plumes noires des accents bleus et mauves. Le coq est resté un moment silencieux, puis il a dit, sans me regarder, « Vous avez un rêve. » Il avait parlé d'une voix si lasse. Je n'étais pas certaine qu'il m'ait posé une question. Peut-être commençait-il une phrase ? Vous ne répondez pas. J'ai réfléchi. Je voudrais travailler dans un journal, j'ai dit. Pourquoi ? Pour raconter. Moi aussi, a dit le coq. Toute ma vie, j'ai écrit des histoires que je chantais. Mais c'est fini, ils ne veulent plus m'entendre. J'ai cherché mon carnet dans mes poches avant de me souvenir que, parti trop vite, je l'avais laissé dans ma chambre, sur la table de chevet.
Évidemment, vous n'avez pas de bec pour écrire. Prenez donc une de mes plumes, a dit le coq en me tendant son aile. Je ne voudrais pas vous faire de mal. Vous plaisantez ? J'en ai vu d'autres et des pires. J'ai tiré d'un coup sec et une grande plume s'est détachée. Je l'ai trempée dans l'encre du coquillage et j'ai pris une feuille sur le banc, que j'ai pliée en deux. Quand Maurice a compris que j'étais prête, il a repris. Je viens souvent ici, la nuit. J'aime le silence des églises. J'en ai besoin pour écrire, pour composer. Enfin, j'en avais besoin. Je viens encore, par habitude, écrire des chansons qui ne seront jamais chantées, faute de public. Vous avez pensé à chanter moins fort ou moins tôt ? Pourquoi pas en playback pendant que vous y êtes ? Un coq doit chanter comme un coq. Vous aurez pu dire non et chanter quand même. Coco pense comme vous, mais non. Je ne peux pas prendre le risque de mettre toute la ferme en danger. Elle est ma seule famille et mon silence la protège, a dit Maurice avant de marquer un silence. De toute façon, je sais bien ce qui va se passer devant la basse-cour. Les animaux seront pour moi et les humains contre moi. Et ils parviendront bien à retourner une bête ou deux. Je serai condamnée au silence éternel, il n'y aura pas de rappel. La musique ne sera plus qu'un souvenir que je garderai au chaud dans mon cœur.
La veille de l'ouverture des procès, les gens ont commencé à arriver. Et sur l'île, l'ambiance a changé. Le ferryboat avait amené une petite foule de journalistes, de curieux, d'amis des bêtes et Maître Cabillaud, avocat de Maurice. Du jour au lendemain, il avait arrêté la politique pour devenir avocat et sa route avait croisé celle de Maurice. Quand j'ai ouvert mon cabinet, a dit Maître Cabillaud, j'ai proposé mon aide à une association de défense des animaux. Gratuitement, cela va de soi. Je suis intervenue dans quelques affaires et me suis passionnée pour les procès d'animaux. Figurez-vous qu'à une époque, il était courant que les bêtes soient jugées pour leurs crimes, comme des personnes. Au Moyen-Âge, plusieurs cochons ont été condamnés à mort après avoir attaqué des humains. Juste après la Révolution française, un perroquet a même été jugé par un tribunal révolutionnaire pour avoir crié « Vive le roi !». C'est en m'intéressant à l'histoire de ces procès que j'ai découvert que la loi qui avait créé la basse-cour de justice n'avait jamais été abrogée. Elle était en sommeil, en quelque sorte, mais toujours en vigueur. Je venais de faire cette découverte quand, un jour, j'ai vu entrer dans mon cabinet un membre de l'association de protection des animaux accompagné d'un jeune coq.
Maître Cabillaud est persuadé de l'innocence du coq. Voici ce qu'il pense de la Parisienne qui porte plainte. Depuis le début, cette femme nous ment. Je ne sais pas encore ce que cachent ses mensonges, mais je compte sur le procès pour faire éclater la vérité. Je suis venu pour cela. Je vais te dire ce qui cloche dans sa déposition, a dit Maître Cabillaud. D'abord, j'ai découvert qu'avant d'en devenir propriétaire, son mari et elle avaient loué la maison pour des vacances. Ils savaient donc très bien où ils mettaient les pieds. Mais ce n'est pas tout. La voisine prétend qu'à cause du bruit, elle n'ose plus inviter ses petits-enfants. C'est écrit noir sur blanc dans le dossier. Pourtant, j'ai fait des recherches. Cette femme n'a jamais eu d'enfants. Comment pourrait-elle avoir des petits-enfants ? Mentir à la justice, c'est grave.
Après avoir écouté les différents témoins, les plaidoiries des avocats ont lieu à la fin du procès. Maître des Hautes Fourches plaide contre le coq Maurice. Maître des Hautes Fourches a plaidé le premier. Pour lui, c'était évident. Le juge qui avait condamné le coq au silence avait pris la seule décision possible. Il demandait au jury de confirmer une fois pour toutes l'interdiction de chanter. Il proposait aussi que Maurice soit condamné à payer un œuf de dommages-intérêts à ses clients. Une manière symbolique de reconnaître sa faute. « Ça serait quand même la moindre des choses !» s'est écriée la voisine, qui était assise avec son époux à la table des Hautes Fourches. Pour le dernier jour du procès, les voisins s'étaient mis sur leur 31, comme s'ils avaient déjà gagné, comme s'ils avaient déjà quelque chose à fêter. À la table voisine, Maître Cabillaud écoutait son collègue d'une oreille distraite. Avec son crayon gomme et ses notes posées sur les genoux, il faisait plus penser à un joueur de mots croisés qu'à un avocat sur le point de plaider. Lorsque son tour est venu, il s'est levé et s'est approché du box de Maurice qui lui a serré l'index avec ses longs doigts fins, comme pour lui souhaiter bon courage. Lentement, Maître Cabillaud s'est avancé vers la barre.
Maître Cabillaud a sorti de sa sacoche la feuille que m'avait donnée Maurice à l'église, la nuit où j'avais oublié mon carnet. Dans l'obscurité, je n'avais pas tout de suite remarqué qu'il contenait un brouillon de chansons. Ce n'est que bien plus tard, en recopiant mes notes, que je l'avais découvert. Ceci est une chanson. Une chanson écrite par mon client, Momo. Une chanson qui, s'il la chantait publiquement, ferait l'effet d'une bombe dans les poulaillers de Lille. Et d'ailleurs, le morceau s'appelle Coco Ciao, a dit Maître Cabillaud en enfilant ses lunettes pour lire les mots écrits au dos du papier. En voici le refrain. Pondu, vendu, voici notre destin. Haché, broyé, il est temps de dire fin. Nous n'irons plus à l'abattoir. Pour nous plumer, revenez plus tard. On veut du verre, pas une vie en enfer. Plus loin dans la chanson, il est question de poulets prisonniers d'un poulailler géant. De 100 000 pauvres bêtes torturées dans une usine sinistre, enfermées toute leur vie dans des cages minuscules avant d'être lâchement mises à mort. C'est cet enfer que Maurice s'apprêtait à dénoncer. Et ceux que cela dérangeait ont voulu le faire taire.
Maître Cabillaud a découvert que Hautefourche est le propriétaire du poulailler géant que des ouvriers étaient en train de construire en secret. Tout s'explique. Alors la voyante a bien été obligée d'avouer, oui, elle avait menti. Elle avait cherché à faire taire Maurice. Il fallait la comprendre, disait-elle. Elle n'était pas, elle était qu'un pion entre les mains des hautes fourches. Toute sa vie, elle avait travaillé comme comptable au bureau parisien de la DHF, compagnie dirigée par le cousin germain de son avocat. Quand il l'avait entendu parler d'une chanson qui risquait de déclencher une révolte dans les fermes de la région où Maurice était si populaire, les hautes fourches, lui, avaient demandé de porter plainte contre le coq. En échange, elle et son mari avaient reçu de l'argent pour payer la maison. Au début, le fermier avait protesté, mais Westhoff, l'une des sociétés du DHF, avait acheté son silence et celui de son coq en prenant ses œufs au double de leur prix.
Les journalistes se sont massés autour du maître Cabillaud. J'ai réussi à me faire une place et je l'ai entendu annoncer que l'Association des protections des animaux lui avait officiellement demandé de porter plainte contre les hautes fourches et leur projet poulailler géant. Un autre procès aura bientôt lieu. Le verdict est tombé. À l'unanimité, le jury a acquitté Maurice. Le coq était libre de chanter. Cependant, le trajet du port à la ferme que Maurice aurait demandé à Coco de trouver un moyen de remercier tous les amis qui lui avaient soutenu. Pourquoi pas un concert gratuit ? Aurait proposé l'impresario. Le grand concert des coqs jamais organisé. Quant à Jeanne, il ne lui restait plus qu'à rédiger son article pour West Matin.